Bonjour à vous, amis auditeurs de Radio B, la radio des bonnes ondes 90.0. Vous êtes dans l'émission Musique au pluriel, animée par Paul Turchet et Bruno Point. Aujourd'hui, nous allons faire, si j'en ai fait un décompte juste, une 16e émission consacrée à des compositeurs français. Aujourd'hui, nous allons parler de deux compositeurs, je dirais très peu connus, Albéric Magnard et Théodore Dubois. Nous avons eu le plaisir de consacrer des émissions à de grands compositeurs du XIXe siècle, je pense à Massenet, Saint-Saëns, César Franck, entre autres, Gounod aussi, Édouard Lalot, Chabrier, à quelques compositeurs postérieurs qui sont un peu à cheval sur le 19e et le 20e, mais qui auront marqué, je dirais, le début du 20e. Je pense à Claude Debussy et à Maurice Ravel, et à un compositeur franchement du 20e siècle, Francis Poulenc. Eh bien, nos deux compositeurs d'aujourd'hui sont, eux, à cheval sur le 19e et le 20e, mais musicalement ancré dans le 19e. Albéric Magnard est né en 1865. Théodore Dubois, qui fut son professeur, est né en 1837. Théodore Dubois est mort en 1924, alors que, tristement, nous le verrons, Paul l'évoquera, Albéric Magnard est décédé en 1914, au début de la guerre. Pourquoi parler de ces compositeurs? Eh bien, parce que Albéric Magnard est un très bon compositeur qui a eu une vie assez austère. Théodore Dubois, je dirais, est lui plus léger dans la teneur de sa musique, mais c'était quelqu'un de très sérieux qui a dirigé le Conservatoire de Paris. Et donc, nous allons nous consacrer à, je dirais, réveiller la mémoire de ces deux compositeurs. Je passe la parole à Paul qui va nous parler d'Albéric Magnard.
Commençons donc par Albéric Magnard, ce compositeur français qui n'a rien fait d'ailleurs pour véritablement se faire connaître, doté d'un caractère extrêmement trempé. Il naît le 9 juin 1865 à Paris. Il est un peu inclassable à l'époque parce que on s'en tiche bien sûr de Debussy, Ravel et d'autres. Et lui, il est très beethovenien. Et puis lorsqu'il va à Bayreuth écouter Tristan et Iseut de Wagner, c'est évidemment une révélation. Il fait du droit, mais il rentre au conservatoire. Et il a comme maître Dubois et Massenet, à qui on a consacré une émission. Puis il travaillera 4 ans avec Vincent d'Indy, qui sera son ami jusqu'à sa mort tragique. Il va enseigner à la Schola Cantorum et composer peu d'œuvres, parce qu'il meurt jeune à 49 ans, 21 numéros d'opus, mais des œuvres vraiment tout à fait singulières, et tout à fait belles. Il écrit aussi 4 symphonies, dont sa 4e est dédiée à une organisation féministe. J'en parlerai plus tard. Il démissionne de l'armée aussi parce qu'il est Dreyfusard. Donc c'est un caractère exceptionnellement trempé et qui d'ailleurs refusera beaucoup d'honneur et se retirera dans le manoir de son père qui est le rédacteur en chef du Figaro, dans l'Oise. Annonçons maintenant le chant funèbre opus 8 de 1895 qui est dédié à son père, œuvre tout à fait poignante.
Thank you.
L'hymne donc que nous venons d'entendre est dédié à son père. Il la compose après sa mort. Son père, qui était rédacteur en chef du Figaro et qui avait embauché son fils car il n'était pas vraiment convaincu par ses ambitions musicales. Et lorsque son père décède, il démissionne du Figaro. Il ne faut pas rester comme domestique dans la maison où on a été patron, et écrit-il de manière ironique. C'est un féministe, il dédie, je le répète, une de ses œuvres, la quatrième symphonie, une organisation féministe. Il est pour le vote des femmes, pour le partage des tâches ménagères. S'il est épris de justice, c'est pour ça qu'il s'engage, il est Dreyfusard, il démissionne à l'époque de l'armée, au moment où Dreyfus est accusé. Il démissionne de l'armée, il voudrait y revenir, mais au moment de la guerre de 14, on jugera qu'il est trop âgé. Il écrit un magnifique opéra, il en écrira deux, mais celui que l'on retient, c'est « Guerre-cœur ». C'est vraiment une hymne à la justice, encore une fois. C'est « Guerre-cœur » qui fait sortir son pays de la dictature pour le faire rentrer dans la démocratie. Il meurt accidentellement. Sur son lit de mort, son épouse Gisèle lui jure fidélité éternelle. Et il monte au paradis, il y a les déesses du paradis. Il ne reste pas en paix, il veut retourner sur terre. Et il veut revoir Gisèle, son épouse. Exceptionnellement, les déesses l'autorisent, sauf la déesse de la souffrance, à revenir sur terre. Et il s'aperçoit que Gisèle a épousé Urtal, qui était son grand ami avec lequel il avait abattu la dictature. Il pardonne, mais il est tué par la foule qui, finalement, préfère un dictateur à un démocrate. Donc, il remonte au paradis. Et là, au paradis, le final est magnifique. Cet opéra a été donné cet hiver sur France Musique. Pour moi, ça a été vraiment une révélation. Je connaissais le titre, mais pas l'œuvre. C'est grandiose. C'est l'union de la science, de la religion qui feront coexister les hommes de manière harmonieuse. Écoutons donc un extrait de « Guerre-cœur », opus 12, acte 1, « Est-toi, frère, dont la plainte trouble l'air harmonieux ».
Thank you.
après ce premier extrait de Guerqueur, un second extrait. Cette fois, c'est l'acte 2. Si cruelle, si touchante, si traîtresse, si belle, bien entendu. Il s'agit de son épouse Gisèle.
Thank you.
J'ai dit tout à l'heure que Magnard se situait entre Beethoven et Wagner, et l'histoire est ironique parce qu'on l'a très souvent surnommé le Bruckner français. Il écrit donc peu d'œuvres, mais qui sont très denses, très émouvantes, très poignantes, et sa mort est tragique. Nous sommes en 1914, Première Guerre mondiale, le 3 septembre, les Allemands font une percée en Picardie. Il est dans son manoir avec son gendre. Les Allemands arrivent, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour occuper le manoir. Lui qui était un grand patriote, il prend son pistolet, il tire sur deux Allemands. Il touche ou il tue deux Allemands. Bien entendu, la troupe riposte. Il est tué par les Allemands qui incendient son manoir et qui, d'ailleurs, vont brûler en même temps des partitions, dont deux actes de Gerker qui seront réécrit par son grand ami Ropartz à partir de réductions pour piano que Magnard avait faites. Donc c'est très fidèle ce que réécrit son ami. Donc voilà cette mort tout à fait tragique. Le Sénat voudra le faire entrer au Panthéon. Sa famille refusera catégoriquement, disant que c'est un hochet bien tardif.
Et son fils a été épargné, ou son gendre.
Son gendre a été épargné, il s'est fait passer pour le jardinier et il a eu, heureusement pour lui, la vie sauve. Donc, il a écrit aussi des opus de musique de chambre qui sont vraiment toujours cette musique très un peu sombre, poignante, qui a un côté tragique. Et il a écrit un très beau quintet, il a écrit une sonate pour piano et violon, etc., un trio. Mais il écrit un très beau quintet pour piano et vent que nous allons écouter dans son deuxième mouvement, avec une composition extrêmement originale.
Thank you.
Eh bien, après Albéric Magnard, nous voici avec Théodore Dubois. Théodore Dubois, qui nous ne respectons pas l'histoire, puisqu'il fut le professeur d'Albéric Magnard. Théodore Dubois est né en 1837 à Ronnay, dans la Marne, donc dans l'est de la France. Il décédera à Paris en 1924, bien postérieurement à Albéric Magnard. Où est venue sa vocation de musicien? Eh bien, c'est à l'église de son petit pays où il entendait un harmonium, il dira plus tard, fort mal joué. Et il découvrit l'orgue à Reims, fort bien joué. Donc déjà, il avait l'oreille, il a fait la différence entre peut-être les deux instruments, l'harmonium et l'orgue, mais surtout entre la qualité des interprètes de ces deux instruments. Et donc, il commence très jeune l'orgue avec un voisin, un professeur, je dirais, de circonstance. Il devient rapidement l'organiste de son petit village et son grand-père lui offre d'ailleurs un harmonium et il travaille cet harmonium comme l'orgue chez lui. En 1853, c'est-à-dire grosso modo à 16 ans, il intègre le Conservatoire de Paris où il suivra les cours de piano et d'orgue et d'harmonie. Il obtiendra les prix dans ces trois catégories aux alentours de sa 20e année. Il poursuivra dans l'orgue puisqu'il prendra les orgues de la Madeleine, où là il succède ni plus ni moins qu'à Saint-Saëns. En 1890 environ, il sera lui-même professeur de composition et d'harmonie au Conservatoire de musique, puis il sera aussi adhérent de l'Académie des Beaux-Arts où il succède à Gounod. Donc voilà un musicien bien ancré dans son siècle qui succède à l'Académie des Beaux-Arts à Gounod et aux Orgues de la Madeleine à Saint-Saëns. On va dire que Théodore Dubois est un musicien académique. Il n'est pas un novateur, d'ailleurs il aura des problèmes avec les musiciens que sont Ravel et Debussy, surtout Ravel, où il n'appréciera pas la modernité, en tout cas il ne la comprendra pas. Mais tout ça n'est pas très grave, et la vie musicale est faite comme toutes les vies d'ailleurs de querelles, de passions et de tendances, de chapelles, dirons-nous. À tel point que, par exemple, il deviendra directeur du conservatoire à peu près au moment où Vincent d'Indy s'en extraira pour fonder la Schola Cantorum. Vincent d'Indy, par ailleurs, grand ami d'Albéric Magnard, alors qu'ils avaient des convictions religieuses et philosophiques et politiques totalement différentes. Donc, ça n'empêchait pas ces deux musiciens de s'apprécier. Nous allons écouter une œuvre tout à fait, j'allais dire, charmante, je n'aime pas ce mot, mais en tout cas tellement bien écrite, avec une belle mélodie. Et puis, c'est un trio assez inhabituel de la harpe, de la flûte et un alto. Et là, on a vraiment une œuvre, mais extrêmement bien écrite, délicieuse à écouter, qui me fait penser, peut-être à un degré moins, mais à la perfection des œuvres de Camille Saint-Saëns, qui est sûrement plus inspirée, mais en tout cas très classique aussi, ou de Gabriel Pierney, qui ont fait l'objet de notre part d'émission. On a là un formidable compositeur, peut-être plus professeur que novateur, en tout cas très certainement pas novateur, mais qui nous laisse une très belle musique. Eh bien, écoutons ce Terzettino.
Thank you.
Vous avez écouté au cours de cette émission Michel Plasson dirigeant l'orchestre du Capitole de Toulouse, tout d'abord dans Le chant funèbre d'Albéric Magnard, puis deux extraits de Guerre-Cœur du même Albéric Magnard, avec Hélène Jossou et Isabelle Manent, ainsi que José Van Damme, nous en parlerons à la fin de l'émission. Puis l'ensemble Stanislas avec Jeffrey Nann au piano dans le quintet pour piano et vent d'Albéric Magnard, et enfin enregistré au festival Fiati à Bergame, le trio pour harpe, flûte et alto de Théodore Dubois. Et maintenant, parlons de José Van Damme, qui donc était le héros de Guerre-Cœur d'Albéric Magnard. Eh bien, José Van Damme, grand, immense chanteur d'opéra belge, vient de nous quitter le 17 février 2026. Il était né en Belgique en 1940. Il a été rapidement au Conservatoire Royal de Bruxelles, où il a eu le premier prix de chant. Puis il est arrivé en 1961, c'est-à-dire à 21 ans, à l'Opéra de Paris pour les Troyens, et ensuite il a joué sur toutes les grandes scènes du monde. C'était un être très connu et surtout très humble, alors qu'il était une grande star. Tous les chanteurs, tous les choristes, tous les chefs d'orchestre s'accordent pour dire que c'était un homme de troupe, d'ailleurs il le disait. Il voulait absolument que l'opéra soit une œuvre collective et non pas la star qui s'exprime. Il a laissé donc une grande trace avec une très belle image d'un homme généreux tout au long de sa vie. Nous l'écouterons, pour faire un clin d'œil à notre émission sur les musiciens français, dans un air de Léo Delibes, grand musicien du 19e, dans L'Acmé, ton doux regard se voile. Paul et moi vous souhaitons un bon mois et vous donnons rendez-vous le mois prochain sur Radio B.